Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tout juste 16h sur Séance Radio, bienvenue à vous. Vous arrivez juste à temps pour retrouver l'équipe de fanfootage.fr, Thomas Camacho et Pierre Delors.
Bonjour.
Et l'équipe de
Salut.
Super 16, Antoine Corté et Alexis Yomé pour nous parler de Star Wars. C'est parti.
Salut Betty. Alors oui, on va parler du 8e épisode de Star Wars Les Derniers Jedi, qui est sorti ce mercredi 13 décembre, je crois.
Tout à fait, ouais, c'est ça. Personne n'a pu passer à côté.
Ouais.
Et pourtant, alors petite parenthèse avant de commencer le débat, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup d'affichage dans la rue. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais
alors c'est censé commencer ce mercredi, je crois.
Ah ben oui, mais comment tu le sais, Alexis?
Bah,
tiens,
je crois qu'on a rencontré, on a discuté avec Fred Monroe qui est de Disney et justement qui nous disait que l'affichage, en tout cas la grosse campagne d'affichage, allait commencer le mercredi de la sortie. Donc ça, c'était pas le moment même, mais ça va être sur deux semaines, trois semaines, voilà.
C'est étonnant, ouais.
Et ouais.
Donc, alors, ce nouveau film, donc écrit et réalisé par Rian Johnson, le nouveau showrunner de la saga maintenant, puisqu'on lui a confié la prochaine trilogie, la quatrième prochaine trilogie.
Une trilogie. Attention, parce que derrière quatrième trilogie, on se dit ça va être les épisodes que je calcule 9, 10, 11, 12. Voilà. Et en fait, pas du tout. Ça va être une autre trilogie dans l'univers Star Wars, dans un endroit encore inexploré. Personne ne sait encore de quoi il va,
mais bon,
il va s'agir.
Pas
mais voilà.
Faire l'épisode 20, 21, 22 direct, non?
Pas tout de suite.
Peut-être pas lui. Peut-être pas lui. Sans doute quelqu'un d'autre, effectivement. Donc, on repitche un peu le film, on recontextualise. Je pense que tout le monde a vu épisode 7. On a vu que le Premier Ordre a pris la main sur la Résistance. On dit plus la Rébellion, mais la Résistance.
Exactement.
Voilà. Donc, il reste une poignée de résistants. Et donc là, il est question maintenant de suivre et de s'intéresser vraiment aux personnages principaux, à savoir Rey, notre héroïne qui se découvre une fibre de la force,
exactement.
Voilà, et elle va retrouver notre ami Luke Skywalker.
Voilà, parce qu'on l'avait quitté en compagnie de Luke Skywalker sur la petite planète de Arcto, là, sur l'espèce d'île en plein milieu d'un océan immense.
Exactement. Et puis on va également suivre, ça va être aussi l'occasion d'approfondir les personnages qui sont autour, la team, à savoir donc Poe Dameron, le commandant de la Résistance. Il va y avoir également donc Finn, qui était tombé dans le coma à la fin du d'épisode 7.
Ouais.
Voilà. Alors qu'en avez-vous pensé, messieurs? Je vous en prie, commencez, allez-y.
Ah, moi forcément, j'avais eu énormément d'attentes puisque le 7, je l'avais profondément détesté, profondément ennuyeux et peu inspiré. Rogue One, ça m'avait un petit peu ravivé l'espoir puisque bon, même si le film avait subi quelques réécritures, j'étais quand même très intéressé de savoir que le 8 était entièrement à la fois écrit, réalisé par Rian Johnson, qui avait même plus eu de réécriture et tout ça. Et finalement, le film, je l'ai trouvé très intéressant parce que au moins, il est audacieux, il propose certaines choses, des choix sur lesquels je suis pas forcément toujours d'accord, mais au moins il tente des choses nouvelles qu'on n'avait pas encore vues avant, et notamment par rapport à Abraham, c'est un petit peu le jour et la nuit. Mais après, je trouve qu'il manque un petit peu aussi d'ambition. Il est audacieux sur certains trucs, mais ça manque un petit peu d'ampleur sur certaines séquences.
Antoine?
Oui, bah moi je suis un peu d'accord avec Alexis, c'est-à-dire que j'ai retrouvé l'ambiance de la première trilogie, donc j'ai bien aimé, sachant que je ne me suis pas endormi, donc c'est déjà un bon point s'agissant de Star Wars. Des quelques scènes too much quand même, on va pas dire lesquelles, mais
oui, parce qu'on précise, on évite les spoils, on va juste.
Mais c'est vrai que ça va un petit peu loin. Et par contre, j'ai noté quelque chose qui dénote par rapport aux anciens, c'est beaucoup d'humour. Je sais pas si c'est quelque chose d'inhabituel dans la saga Star Wars, mais là en tout cas j'ai trouvé que ça allait vraiment sur des blagues et même des petites anecdotes qui doivent être hors plateau ou ce genre de choses. Donc voilà, globalement un beau renouvellement de la saga et une impression plutôt positive sur ce film.
Pierre?
Ben, moi justement je vais rebondir un petit peu sur l'humour parce qu'effectivement c'est un des aspects qui est surprenant du film et j'avais l'impression que j'étais un peu le plus mitigé sur Star Wars épisode 8, je suis pas complètement fan même si je lui reconnais beaucoup de qualités. Simplement pour moi, ne serait-ce que l'introduction, les toutes premières images du film, ça a été extrêmement problématique, c'est-à-dire qu'on commence, je vais pas expliquer ce qui se passe, mais là pour moi on va clairement draguer du côté de Guardians of the Galaxy, de Star-Lord. Il y a une espèce d'échange entre Poe Dameron et l'amiral Hux où on est dans un espèce de... Déjà Finn avait un peu introduit ça dans le précédent, il avait un phrasé très 21e siècle, ça sortait complètement de l'univers Star Wars. Et là on est en plein dedans, pour moi c'est Guardians of the Galaxy, c'est pas Star Wars. Et là c'est dès l'introduction.
Cette séquence là est très laborieuse.
C'est même gênant.
Les 45 premières minutes, je sais pas vous, mais ça a été quand même compliqué pour entrer dans le film parce je pense qu'il a, il reste un peu sur les rails... feeling J.J. Abrams et même en termes d'enjeu ça patauge un peu vraiment mais voilà, après personnellement après ces 45 premières minutes j'ai trouvé le film d'une fluidité remarquable. Une fois que Rey se retrouve avec Luke, l'apprentissage de la force, le poids de ce que ça engendre, la sagesse, etc., j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Et effectivement tu le disais Alexis, il y a des parti pris narratif qui sont quand même très osés. On sent que Rian Johnson, c'est un pur film de Rian Johnson pour moi. Hein. C'est vraiment un pur film de Rian Johnson. Il y a vraiment une sacrée densité dans le film. Et moi ce que je te disais à la sortie Pierre hier du film, c'est que ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est que il est bien plus conséquent dans la dramaturgie par rapport à épisode 7.
Ah oui, mais c'était pas très difficile. Hein. L'épisode 7, c'était le vide abyssal.
Oui, mais quand même, tu vois, il y a Disney derrière. Ça aurait pu être hyper Lys, non, Rian Johnson, on lui a confié les rênes, il écrit, c'est lui, c'est le scénariste, c'est ça qu'il faut préciser quand même, c'est le scénariste, c'est vraiment lui qui a écrit le film.
Après, il discute quand même avec Kathleen Kennedy, qui donne quand même le feu vert ou pas.
Évidemment. Il reste une charte à respecter, mais ce qui est assez intéressant, c'est une des qualités que je lui reconnais, c'est que pour moi, bon, le set, ça avait été vraiment épouvantable, y compris Rogue One, pour le coup je suis pas du tout fan de Rogue One, mais on sent que Rian Johnson il est un peu obligé de passer derrière ce qu'avait établi J.J. Abrams, donc il y a des impératifs à respecter. Et en même temps je lui reconnais cette qualité, c'est il fait un peu le ménage, genre il se débarrasse de beaucoup d'absurdités qui avaient été établies par l'épisode 7, et ça pour le coup ça fait un petit peu du bien.
D'absurdité quand même, il y a un moment donné il faudra dire à Laura Dern que quand on dirige un vaisseau il faut éviter de se mettre en robe de gala, c'est plus pratique pour bouger.
Oui, il y a des personnages qui sont assez faibles, effectivement.
Laura Dern, elle fait partie de ces acteurs de renom qui sont venus. Il y a Benicio del Toro aussi, notamment dans le film. Des grands acteurs qui sont là pour une scène de 1 à 2 minutes. Et c'est ce que je reproche aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui me paraissent complètement anecdotiques dans le film. Il y a une espèce de subplot que je vais pas révéler, mais à un moment on va sur une autre planète où justement il y a cette histoire avec Benicio del Toro. Ça pourrait être absent du film, ça ne changerait absolument rien en fait. Pour moi c'est un ressort complètement gratuit qui n'apporte rien, qui est d'ailleurs on s'en débarrasse en un tour de main comme ça, puis on n'en parle plus une seule seconde, et Benicio del Toro disparaît totalement.
Oui, non, mais ça, je suis parfaitement d'accord. Il y a plein de faiblesses de ce côté-là pour les personnages, les nouveaux personnages qui arrivent et qui viennent, soi-disant enrichir le film. Mais au-delà de ça, j'ai redécouvert Kylo Ren. Je veux dire, c'est le jour et la nuit par rapport au précédent film. Il est beaucoup plus complexe. On aborde effectivement les conséquences qu'a eu le décès de son père, donc à Han Solo.
Enfin,
il a des dilemmes moraux. Il y a Rey qui gagne en carrière. Flynn, est plus intéressant car moins grande gueule. Je trouve que on a franchi un pas. La nostalgie, elle y est toujours un tout petit peu quelque part.
Surtout avec Luke.
Oui, bien sûr. Mais et d'ailleurs, Luke, performance, hein, une belle performance. Hein.
Alors, moi, je suis pas totalement d'accord, notamment sur Kylo Ren. Je trouve qu'il y a un gros problème de caractérisation. Parce qu'on a beaucoup reproché à celui-ci d'être un peu faiblard, de pas assumer avec Dark Vador un peu la suite, quoi. Mais là, moi, je me pose de vraies questions parce qu'effectivement, on est dans une ambiguïté. Est-ce que c'est le gros Dark Vador ou est-ce que c'est le méchant avec ses inquiétudes? C'est ce qui me pose souci.
Si je peux me permettre, je sais pas si t'avais envie de dire quelque chose là-dessus. Si je peux me permettre, je pense que le plan initial de J.J. Abrams et de son équipe, c'était d'en faire un nouveau Dark Vador, c'est-à-dire qu'il lui avait fait un casque qui était exactement similaire. Ils s'habillaient de la même manière. C'est quelque chose qui me dérangeait dans l'épisode 7, c'est que c'est tellement un film de fanservice que même les personnages eux-mêmes étaient fans des personnages de Star Wars.
Mais oui.
Et donc Kylo Ren était obsédé par Dark Vador. Et bien là, c'est une des choses qu'on peut au moins saluer dans ce nouvel épisode, c'est que Rian Johnson débarrasse un petit peu Kylo Ren de ses espèces d'attributs de pseudo-Vador. D'ailleurs, c'est quasiment ça, on lui dit qu'il sera qu'un Vador d'opérette et que ça ne fonctionne pas. Donc il se débarrasse de ses attributs et il peut enfin évoluer, aller vers quelque chose d'autre, explorer son personnage en tant que Kylo Ren et pas qu'en tant que Pseudo Vador.
Bah même le personnage de Rey, puisque dans le 7, c'est le personnage du fan ultime, puisque en plus déjà qu'elle connaît un petit peu l'histoire de Luke Skywalker et tout ça, bah, elle a récupéré un robot, elle est Jedi, elle est recrutée par Han Solo pour bosser sur le Faucon Millenium.
Et elle lui dit, waouh, vous êtes Han Solo, j'ai toujours rêvé de vous rencontrer, c'est
extraordinaire.
Mais ça,
et donc
c'est,
en fait, elle incarnait le fan, et donc elle est à la fois Jedi et Han Solo en même temps, quoi. Donc c'était génial.
Mais et il y a autre chose qui me gêne un petit peu dans le... Bon, là je me fais vraiment l'avocat du diable.
Vas-y,
il y a des choses que j'ai aimé quand même
pas
dans le film. Mais il y a un truc, c'est que pour moi Star Wars, et je sais pas si je suis le seul à penser ça, mais la trilogie originelle en tout cas, c'est vraiment cet aspect de jamais vu, de sidération totale. Quand chaque film sortait, on avait toujours quelque chose de absolument nouveau. Et on voyait l'Empire contre-attaque, on voyait le retour du Jedi, on se retrouvait toujours avec des scènes et des éléments complètement iconiques. Et ce que je reproche à cet épisode 8, c'est
qu'il y a des passages iconiques.
Ben moi, tu vois, je vois pas ce qui est absolument sidérant, absolument iconique ou jamais vu. C'est-à-dire que je ne retiens, par exemple, aucun design de vaisseau.
Et pourtant,
on est dans Star Wars. Il y a rien qui sort
sur le rendu visuel.
C'est que de la redite, de la refonte.
Alors, je suis d'accord avec toi là-dessus, effectivement. Maintenant, moi, l'iconisation, je la vois dans les personnages.
Oui, dans les personnages, mais par exemple, Star Wars, t'avais des scènes absolument mémorables. C'est-à-dire que là, on sait que c'est un espèce de remake de l'Empire contre-attaque. Et heureusement, Rian Johnson arrive à dépasser ça et aller plus loin. Mais il réutilise les mêmes vaisseaux, les quadripodes, les tranchées. Enfin, tout ça, on l'a déjà vu. Et en plus, dans le film, c'est presque anecdotique au final. On n'en fait pas grand-chose.
Il y a des petites créatures sympas quand même.
Il y a un gros bestiaire.
Il y en a toujours eu.
Alors, les fameux porgs, effectivement, moi je n'ai pas été plus dérangé que ça, a priori. Hein. Vraiment.
C'est pas trop gênant.
Non, c'est pas trop gênant finalement en fait. C'est pas trop gênant hein, ces petits porcs.
C'est marrant. Ils sont très marrants. Mais on a envie d'un doudou pour Noël.
Tu vois, c'est-à-dire que quand on fait l'Empire contre-attaque, parce qu'on va le comparer un petit peu vu qu'il le remake plus ou moins, l'Empire contre-attaque, on arrive dans la Cité des Nuages, et ben là, on a un environnement magnifique que t'as envie d'explorer. Mmh. On te présente toujours de nouvelles choses, de nouvelles planètes, de nouveaux environnements. Et ben là, on s'y attarde quasiment pas. Tu vois, cette séquence avec Benicio del Toro. Comme je te disais, on pourrait passer à autre chose.
Non, mais c'est un grand point faible du film, effectivement.
Et même la planète finale qui ressemble plus ou moins à Hoth, c'est pas de la neige. C'est pareil, on y reste peu de temps et on n'apprend rien, on s'y balade pas tellement.
C'est ça. Il y a une base abandonnée, donc voilà.
Bah, comme d'habitude, avec la porte du hangar.
Je reconnais effectivement qu'il y a plein de d'éléments empruntés. Mais voilà, moi j'ai ce sentiment que Rian Johnson se réapproprie le mythe. Oui. Il nous sort vraiment de notre zone de confort. C'est le moins qu'on puisse dire, j'ai l'impression quand même.
Hein. C'est du faire repasser.
Il y a beaucoup de surprises, il y a beaucoup de choses. Hein. À mon avis, ça va en désarçonner plus d'un par rapport au précédent film.
Surtout J.J. Abrams, puisque vu qu'il passe la moitié de son film à nettoyer tout le merdier qu'avait posé Abrams sur le set, et vu, on va dire, la merde dans laquelle il le met à la fin du 8, sachant qu'en plus, Carrie Fisher disparaît, donc je spoil à personne. Mais bon, vu comment le 9 se profile, Abrams est dans la merde, puisque tout ce qu'il avait dispatché dans son épisode 7 en se disant j'ai laissé des petits mystères que je vais pouvoir égrener au fil des films, bah là Rian Johnson il a fait ok, bon bah je te débarrasse de tout ça, maintenant débrouille-toi.
Mais du coup Rian Johnson il est impliqué dans le scénario du prochain?
Du tout. Il est complètement indépendant par rapport à ça.
Le retour de J.J. Abrams,
c'est peut-être l'occasion pour la planète de se rendre compte que J.J. Abrams c'est une vaste arnaque.
Mais en fait, Mark Hamill s'est exprimé là-dessus, puisque en fait, il regrettait que Disney n'ait pas utilisé les idées de George Lucas, parce que Lucas avait prévu une histoire sur trois épisodes. Même au tout début, Michael Arndt, le scénariste, avait prévu une histoire sur trois épisodes. Finalement, Abrams et Kasdan avaient réécrit. Puis ensuite, ça a été Rian Johnson qui avait demandé même à Abrams de rajouter 2-3 scènes, de modifier 2-3 trucs dans son film pour que ça puisse coller par la suite. Donc là, pareil, une fois que Abrams maintenant reprend le travail de Colin Trevorrow, je sais pas à quoi ça va ressembler maintenant.
Parce qu'il y a même, pour le coup, on est sur un film très particulier
et très long. C'est assez intéressant.
C'est long. Et encore, je crois que le premier cut, il avait dit qu'il avait duré 3 heures.
Rian Johnson. Toujours chat. toujours.
Et en fait, moi, ce que je me pose comme question maintenant, c'est qu'est-ce qu'il en est pour les spin-offs, parce que à savoir que ce film-là est quand même un film pivot quelque part, parce qu'il redéfinit, il remet tout à plat. Qu'est-ce qu'on peut attendre des spin-offs de Ron Howard là pour le Solo?
Bah, Han Solo, ce sera au mois de mai. Il y a celui de Stephen Daldry sur Obi-Wan Kenobi, donc qui devrait se passer entre épisode 3 et épisode 4. Donc, alors c'est aller-retour depuis Tatooine, quoi. ouais. Normalement, il devrait commencer à être tourné à partir de janvier. Ouais. Et apparemment aussi, le Boba Fett, qui devait être réalisé par Josh Trank, est ressorti des cartons et sûrement proposé à Taika Waititi.
Et Simon Kinberg, on en parle aussi, le réalisateur de X-Men Dark Phoenix.
Dark Phoenix sorte et on en reparle.
Alors, sur le film Boba Fett, pour le coup, moi, j'ai une petite théorie. Je sais pas si vous allez... on a appris hier ou avant-hier que Joe Johnston,
qui est le créateur original de Boba Fett,
revient dans le giron de Disney pour faire les reshoots de la version live de Casse-Noisette, l'adaptation live de Casse-Noisette. Donc je me dis, c'est peut-être pas innocent tout ça, peut-être qu'il y a eu un deal de passé, on sait pas, ça peut être une surprise, ça peut être intéressant, hein, ceci dit.
Disons que moi je suis assez contre l'idée de faire des spin-offs, je suis un peu un extrémiste, mais le truc c'est que si quelqu'un doit s'occuper de Boba Fett, en toute logique j'aimerais que ce soit Joe Johnston, bien sûr.
Mais évidemment.
Ma théorie, et ça me désole de l'annoncer, mais ma théorie c'est que pour les prochains Star Wars, pas forcément les spin-offs, mais à la réalisation, comme Kathleen Kennedy avait dit, des femmes, on risque d'avoir Ava DuVernay à la réalisation.
Oula.
J'en ai rien à foutre de Boba Fett, mais j'irai même pas le voir, je crois.
Même si c'est Joe Johnston, le créateur qui revient.
Boba Fett, c'est le chasseur, c'est ça?
Ouais.
Là, non, rien à foutre.
Et Han Solo, pareil?
Oh, si, Han Solo aussi, ça va être sympa.
Ça va être sympa.
Ça va être épique.
Messieurs, une petite note sur 10. Qu'est-ce qu'on dit à propos de Star Wars épisode 8?
Allez, si c'est sur 10, allez, on met un bon 6. Je suis généreux.
Un bon 6?
7.
Ah bon sang, c'est difficile. Je suis peut-être à 5.
5? Ah ouais,
5 ou 6. 5 ou 6.
À peine un point au-dessus de.
Mais il faut
réveil de la force.
Il faut que j'y réfléchisse.
Bon, je pense que ça mérite un deuxième visionnage.
Ouais.
Dans tous les cas, moi je mettrais un bon 8,5.
Ouf, ah ouais, d'accord.
Ah ouais, vraiment un bon 8,5.
C'est
parce que.
Tu t'entends avec les stars.
J'achète. 8,5 pour moi.
Merci les garçons, et on vous retrouve dès ce soir en podcast sur SoundCloud, iTunes et tous les autres agrégateurs, et à partager bien sûr à l'infini. Bon après-midi avec nous sur Séance Radio, et on continue avec vos plus belles musiques de films.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.